Alors, ce matin, je voudrais partager avec nous un bout de l'Écriture. Est-ce qu'on est ensemble? Depuis, je crois, deux ou trois dimanches, nous parlons de la vision. Est-ce que quelqu'un a été béni? Alléluia. Nous partageons sur la vision depuis un moment et c'est important parce que tu ne peux pas entamer une nouvelle année si tu ne connais pas la vision que Dieu a pour toi. Alléluia. La vision te permet de rester dans le chemin, de discipliner ta marche, de discipliner ta marche. Tu ne vis pas pour vivre. Alléluia. Tu ne vis pas pour vivre. La vision nous donne l'orientation. Qui pourrait vouloir aller quelque part sans savoir où il doit aller et encore comment s'y rendre? Alléluia. Et encore comment s'y rendre? Et autrement dit, peut-on errer dans notre vie chrétienne sans objectif fixe venant du Seigneur ou sans savoir comment atteindre cet objectif? Cet objectif. Alors ce matin, nous allons évoluer dans notre enseignement sur la vision en partageant sur le thème les amplificateurs de la vision. Amen. Les amplificateurs de la vision. Alors, je voudrais dire à quelqu'un que Satan n'attaque pas un homme qui est vide. Satan s'intéresse à un homme dans la vie duquel il y a une vision. Amen. Satan s'intéresse à une femme dans la vie duquel il y a une vision. Et une autre chose qui est très importante à savoir ce matin, c'est que personne ne vient sur la terre vide. Dieu dépose, même si sur le trajet de ta marche, Satan te rencontre et t'amène au bar, et t'amène chercher les femmes, et t'amène dans les maraboutages, il y a la vision de Dieu. Alléluia. Il y a la vision de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Jérémie 29, le verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, la vision porte sur l'avenir. Est-ce que quelqu'un me suit? La vision porte sur l'avenir. Alors, je voudrais qu'on ouvre notre Bible rapidement. On va lire deux textes avant de lire le texte phare. On va prendre le premier texte dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28. Alléluia. Le deuxième texte, nous le prendrons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1. Et notre texte que nous avons commencé dimanche dernier, Habacuc, chapitre 2, le verset 1 à 3. 1 à 4. Alléluia. Habacuc 2, 1 à 4. Alors, je vais lire le premier texte, si vous le permettez. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole? Joël 2, 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Je voudrais que dans ta Bible, tu soulignes le mot « vision ». Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Paul dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul parle ici des visions que Dieu lui a communiquées pour pouvoir guider son chemin. Alléluia. Et nous prenons en dernier lieu Habacuc chapitre 2, le verset 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite dans lui, mais le juste vivra par sa foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Qu'est-ce que la vision une fois de plus? La vision, c'est le fait de pouvoir voir ou d'imaginer. Amen. C'est le fait de pouvoir voir ou d'imaginer. C'est le fait de regarder vers l'avenir. Alléluia. C'est le fait de saisir la vérité qui sous-tend des faits. Je répète. La vision, c'est le fait de pouvoir voir. Alors quand je parle de vision, je ne parle pas que tes yeux s'ouvrent, tu vois les démons, tu vois les serpents, tu vois les lions, tu vois les panthères. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle ici de vision en tant que projet. Je parle ici de vision en tant que plan ou planification que tu t'es donné pour ta vie, pour ta marche. Un homme qui n'a pas un plan pour sa marche va aller dans le désordre. Alléluia. Bien-aimé, tu veux réussir 2024, tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'une vision. Cette vision peut être inspirée de Dieu. Cette vision, nous l'avons vu comment elle peut être transmise venant de Dieu. Elle peut venir par des songes, par des rêves, comme Joseph dans Genèse chapitre 37. Il a eu des songes, il a eu des visions qui l'ont permis de devenir l'homme qu'il est devenu plus tard, un des plus grands gouverneurs de toute l'Égypte, à partir des songes que Dieu lui a donnés. Bien-aimé, tu peux avoir des visions par inspiration. Alléluia. Une pensée te monte à cœur et ça devient insistant pour pouvoir guider ta trajectoire, pour pouvoir guider ton chemin. Alléluia. Tu peux avoir une vision par des convictions le long de ton chemin. Alléluia. Et c'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui marchent sans conviction. Ils sont comme des personnes qui suivent les autres. Ah, quand tu l'attends, je suis les autres sont devant. Tu n'as pas de conviction dans ta vie. Un homme de conviction, c'est là où il va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est quoi la vision? C'est un aperçu du plan de Dieu. C'est un aperçu du plan de Dieu. En général, la vision que Dieu te donne pour ta vie, bien-aimé, ça parle pour la fin plus que pour le trajet. Dieu te montrera toujours que tu es arrivé. Mais avant d'atteindre l'arrivée, il y a un parcours. Il y a un parcours semé d'embûches. Il y a un parcours semé de confusion, de rejet, de haine, de tribulation, de persécution. Mais la fin, c'est quoi? C'est la gloire. Alléluia. C'est quoi le Seigneur nous dit dans sa parole? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut toujours se focaliser sur la fin. C'est la fin, c'est la vision qui motive la trajectoire. C'est la vision qui motive la marche. Si tu ne connais pas ta vision, tu n'accepteras pas marcher. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël dans le désert, parce qu'il n'avait pas vu ce que Moïse avait vu, il traînait les pas au désert, il murmurait, il se lamentait. Et c'est ça la caractéristique des gens qui n'ont pas de vision. Ils se lamentent tous les jours, ils se plaignent tous les jours. Alléluia. Les hommes qui n'ont pas de vision, ils se plaignent, ils se lamentent. Et quand ils arrivent à ce niveau-là et qu'ils n'ont pas toujours gain de cause, ils entrent dans le niveau supérieur de la sorcellerie qui est l'envie et la jalousie. Alléluia. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je peux avancer? Bien-aimé. Salomon dit dans Proverbe 29, le verset 18, il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple manque de direction. Bien-aimé. Quand il n'y a pas de vision, le peuple manque de discipline. Ce matin, nous sommes réunis dans cette église parce qu'il y a une vision. Alléluia. Nous sommes ici parce qu'il y a une vision. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour épouser, pour accepter la demande de mariage d'un homme, demande-lui quelle est sa vision. Ma vision, c'est boire et chercher les femmes. Tu es mort en guerre. Amen. Tu ne peux pas entrer dans le bus de quelqu'un qui va à Yaoundé alors que toi, tu vas à Bafoussam. Tout le trajet, il va avoir des insultes, de la bagarre même. Alléluia. C'est pas ça? Ah non, je ne voulais pas aller là-bas. Comment tu m'as amené ici? Non, moi je voulais. Et c'est comme ça qu'à la fin, on va stopper le bus sur le chemin et toi, tu vas sortir chercher un bus qui va rentrer en arrière. Tu auras perdu du temps. Tu auras perdu des forces, tu auras perdu en termes d'intelligence et de capacité. Alléluia. Vous allez voir comme ça, c'est pourquoi vous allez voir que la vision, non seulement nous donne d'avoir une discipline, nous donne également d'avoir une orientation. Une orientation. On ne vit pas par hasard. On ne vit pas par hasard. Quel que soit le temps, on sait que la chose va arriver. Et vous devez savoir que la vision est pour un temps déterminé. C'est pour un temps déterminé. Ce n'est pas parce que Dieu t'a, ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose de Dieu par rapport à ton futur qu'elle doit s'accomplir en ton temps. Non. Non. Le temps de Dieu est le meilleur. Ah oui, ça on dit amen vite. Mais quand ça nous chauffe, on ne dit plus amen. On ne dit même plus amen. On commence à faire comme la chair. Mais. C'est dur. Je reçois plein ici. Ah papa, c'est compliqué. Ah non, je ne comprends pas. Pourquoi? Alléluia. Et c'est à ce moment qu'on n'aime pas écouter l'histoire d'Abraham et de Sarah. Oh non, ils ont attendu 25 ans. Donc tu veux dire que Dieu veut que j'attende aussi 25 ans. On ne veut pas dire ça. C'est juste pour t'encourager dans ta foi. Mais tu as déjà vu la partie compliquée. Alléluia. On dit, il faut avoir la foi. Regarde maman Sarah, elle a eu la foi et Dieu a visité ses entrailles. Tout ce qui t'intéresse, après combien de temps? Après combien de temps? Tu dois attendre 25 ans. Non. Arrière de moi, Satan. Bien-aimé, pensons-nous arriver quelque part, un peu par hasard? Aucune réussite n'est le fruit d'un hasard. Aucune réussite n'est le fruit des hasards. Regardez tous les hommes, toutes les femmes qui ont réussi aussi aujourd'hui dans leur vie. C'est le fruit d'une vision. Et c'est le fruit d'une discipline. La femme la plus riche d'Afrique, c'est une Nigériane. Elle est chrétienne dans une assemblée au Nigeria. Alléluia. Et j'écoutais son témoignage, elle disait... Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que je serai une des femmes les plus riches d'Afrique et je serai comptée parmi les femmes les plus puissantes dans le monde. Mais j'ai pris le temps de travailler. Elle n'a pas atterri là-bas comme ça par hasard. Personne n'occupe une place où il n'a pas été mandaté d'y être. Écoutez bien, bien-aimé, la Bible le dit. Et c'est Paul qui dit, il dit, toute autorité est établie par Dieu. Regardez, toute autorité. Personne, même le méchant, ne peut pas te détruire si Dieu ne l'a pas mandaté. Le truc, c'est que l'un de tes meilleurs enseignements, l'un de tes meilleurs enseignants, ce sera l'homme le plus méchant. Alléluia. Une femme est venue me se plaindre à moi. Ah, papa, mon mari il me tape. J'ai dit, ben arrête de mentir. Elle dit non, je l'avais menti que, j'ai seulement menti que. Je dis arrête de mentir. Chaque fois qu'il découvre la vérité, il frappe sur toi. Alléluia. Et je lui ai dit, le jour que tu vas arrêter de mentir, ton mari deviendra doux. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est vrai qu'il y a des hommes qui tapent seulement comme Ganou. Hein? Bon, on l'a aussi tapé hier, quoi. Mais il y a les hauts et les bas et la vie. C'est comme ça. On n'est pas toujours au top. Alléluia. Ganou, seulement le phénomène de la vie. Un jour c'est ton tour, le jour d'après c'est le tour de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors si tu crois que tu vas être top, tu dois être Dieu. Dieu est toujours top. Il n'a pas de rival. Alléluia. Il ne perd jamais ses batailles. Mais un homme il perd. Parce qu'il est un homme. Tu peux avoir toutes les formations de la terre, mais tu n'as pas le bon travail. Pourquoi? C'est la vie aussi. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Vous voyez, bien-aimé, Lorsque nous observons le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1 et 2, nous découvrons que Dieu va dire à Abraham une instruction importante. Et vous allez voir, ça parcourt toutes les Écritures, nous l'avons vu depuis le départ. Tout homme qui veut aller loin avec Dieu a toujours reçu une vision de Dieu. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te montrerai. Alléluia. Il dit, dans ce pays où je vais te montrer, je vais faire de toi une grande nation. Je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que la vision que Dieu vous donne, vous devez être fidèle à cela. Parce que dans cette vision, vous serez grand. Dans cette vision, vous serez une grande nation. Dans cette vision, vous serez béni. Dans cette vision, vous aurez un nom grand. Dans cette vision, vous serez une source de bénédiction. Alors, si quelqu'un échoue dans sa vision, il devient l'homme le plus pauvre de la terre. Si quelqu'un manque sa vision, il devient l'homme le plus malheureux sur la terre. Si quelqu'un manque sa vision, il devient l'homme le plus insignifiant devant Dieu. Alléluia. Ma question ce matin pour quelqu'un, qu'as-tu reçu de Dieu pour ta vie? Depuis tu vis. Quand on t'attaque, tu dis, c'est mon gars, je l'aime trop. C'est ta vision? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ton plan de secours, c'est un homme? Ton plan de secours, c'est un homme comme toi. Oh, tu as raté ta vie, ma soeur. Il faut rentrer au village, faire le chant. Ou bien tu vas en Dokoti, il y a un lieu là où les gens s'asseyent, ils tapent les mains comme ça pour demander un peu. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, va dans le lieu que je te montrerai. Tant qu'Abraham n'arrivait pas à cet endroit, il ne deviendrait jamais le plan que Dieu avait pour lui. Cette année, Dieu va quelque part avec toi. Mais tu n'es même pas conscient. Tu viens à l'église comme un robot. Tu sors, ah c'était bien, hein? C'était chaud. Ah, l'apôtre, il a encore, mais c'était balèze. Aujourd'hui, non, on a vu des choses. Et après, t'assois-tu et médites-tu ta vision? Qu'est-ce que je suis même venu faire sur la terre? Qu'est-ce que je fous ici? Depuis 5 ans, tu avais le même gars, il t'a dit, je vais t'épouser. Tu fais quoi là? Alléluia. Tu n'as pas de vision. Tu n'as aucune vision. Pourquoi tu es venu sur la terre? Un jour ça va aller. Non, bien aimé, avant de suivre la vision des autres, tu dois avoir ta propre vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon tu vas suivre quelqu'un qui a une vision contre la tienne. Alors je me rappelle de ce témoignage que maman Manou et son mari rendaient concernant la spécialisation que son mari fait aujourd'hui. Il avait une autre vision, il avait une autre orientation. Sa femme a dit non, ta vision c'est que tu sois cardiologue. Il voulait être gynécologue. Qu'est-ce qui s'est passé avec la gynécologie? C'est lui seul qui connaissait. Mais sa femme a vu la cardiologie en lui. Et aujourd'hui, il aime la cardiologie. Même si tu veux tout lui prendre, ne lui prends pas la cardiologie. Il est passionné du cœur des gens. Parce qu'il est au centre de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, parfois, si un homme ne booste pas la vision qui est dans ta vie, il est contre ta vie. Ah, on n'a pas dit amen à ceci. Quelqu'un dit, j'ai la loupé, papa. Ça ne me concerne plus la parole si. Je suis dans le noyer. Je parle à la jeune génération. Si un homme n'influence pas positivement la vision qui est dans ta vie pour t'amener vers le haut, il est ton adversaire. Alléluia. Si une femme entre dans ta vie et qu'elle n'influence pas cela dans le bon côté, tu as échoué avant d'avoir commencé. Je vous ai raconté comment récemment je me suis arrêté quelque part et maman est allée acheter des médicaments devant une pharmacie. Elle est entrée et je voulais acheter des lunettes à un garçon. J'ai vu une lunette là qui m'a plu et je l'ai interpellée. Et on discute et maman rentre, elle ressort, elle dit, ah, les gens là, ils n'ont pas de monnaie. On fait comment? Est-ce qu'on peut, ils ont dit qu'on peut payer par Orange Money. Et elle me dit, où est ton téléphone? J'ai dit, mon téléphone dans la voiture. Elle va dans la voiture. Elle dit, ton code, c'est ce que je connais. Elle dit que oui, c'est mon code. Elle prend mon téléphone, elle n'est pas payée. Le gars dit que grand frère, excuse-moi. Hein? Vous rigolez déjà. Je n'ai pas encore commencé mon histoire. Il dit, grand frère, excusez-moi, vous faites comment pour qu'elle connaisse votre code? Je dis, mais c'est ma femme. Il dit, non! Il dit, mais tu vis avec une femme chez toi? Il dit, oui. Vous avez combien d'enfants? Nous en avons deux. Il dit, c'est quoi? Elle est comment? Il dit, non, c'est une bonne femme. Mais! J'ai dit, mais toi, tu me dis que tu connais son code Orange Money, tout ça. Il dit que oui. Il dit, je ne connais pas, c'est moi qui ai créé. Pour moi, elle ne connaît pas. Je ne peux pas m'oublier. Les filles d'aujourd'hui, hein. Il a fini avec les filles d'aujourd'hui. Amen. Alors, pourquoi il y a cette méfiance, cet état de peur? Tout simplement parce qu'on ne sait pas avec qui on s'est engagé. Alléluia. On ne sait pas si cette personne correspond à notre vision. Du coup, on se dit, peut-être c'est un aventurier, je ne peux pas mettre tous mes œufs dans un seul panier. Quand tu sais que cette personne est ton partenaire de vie pour la suite de ta destinée, tu mets tout à l'intérieur. Mais quand tu en attends un plus grand, hein, comme Jean-Baptiste, il dit un autre plus grand, plus puissant que moi vient. Je ne suis pas digne de délier la couloir de ses souliers. Donc il y a des gens qui ils ont Jean-Baptiste, mais ils attendent Jésus encore. Du coup, ils n'investissent pas tout dans Jean-Baptiste. Ils disent, un meilleur arrive. Un meilleur arrive dans ma vie. Ah, je croyais qu'il parlait à quelqu'un. Donne un bon amen, je continue. Alors, tu as besoin de la vision. Dis à ton voisin, tu as besoin d'avoir une vision. Dis à ton voisin, tu as besoin d'avoir une vision. Écoutez le témoignage de Frère Samuel. C'est une vision qui l'a conduit là où il est. Alléluia. Pendant les moments difficiles, il ne s'arrêtait pas. Il venait à pied même à l'église. Alléluia. Parfois, c'était dur avec sa femme et lui. Sa femme dit, bon, prends ça, va. Moi, je vais aller me débrouiller tel endroit. Mais jamais les deux ne manquaient dans la présence de Dieu. Au moins une personne était dans la présence de Dieu pour les deux. Pourquoi? Parce qu'une vision est là. Parce qu'une vision est là. Parce qu'une vision est là. Alléluia. Par la vision, Isaac entra dans le règne de la domination. Voyez, Genèse chapitre 26. À partir du verset 1 et 2, la Bible dit qu'il y a eu une grande famine outre du temps d'Abraham. Et tout le monde allait en Égypte. Tout le monde s'exilait. Bien aimé, aujourd'hui les gens vont au Canada. Avant c'était en Égypte. Ce n'est pas nouveau. Et tout le monde partait. La Bible dit tout le monde partait en Égypte pour trouver le bon endroit. La Bible dit. Au verset 2, l'Éternel lui apparut. Dis avec moi, l'Éternel lui apparut. Que l'Éternel t'apparaisse dans les décisions de ta vie. Que l'Éternel t'apparaisse au nom de Jésus. que l'Éternel t'apparaisse au nom de Jésus. Devant cette situation, devant ce problème, que l'Éternel t'apparaisse et te donne la bonne décision à prendre au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure là, à Guéra, dans le désert. Et si vous suivez la suite de la lecture, la Bible dit qu'il demeura à Guéra. Il sema à Guéra. Et il récolta au centuple. La Bible dit qu'il devint tellement riche qu'on a mis même le mot fort riche. Ça dit qu'il était devenu tellement riche qu'on ne comptait plus sa richesse. Et la Bible dit que Abimelech, qui était le roi de Guéra, a demandé que tu es plus fort que nous. Un homme est devenu plus fort qu'un royaume. Un seul homme. Est-ce que vous savez que sur la terre, s'il y a des hommes qui sont tellement riches que même les rois et les présidents ne peuvent rien leur dire? C'est eux qui viennent dire, regardez Bill Gates, tous les jours, vous, il parle à Bill Gates, non, allez en Afrique, piquez-les. Tous les jours, l'enfant, il y a 6 mois, allons encore l'injecter. Vous croyez que qui paye ça? On vous dit c'est gratuit. Amen. C'est un homme qui décide un matin, dit non, piquez-les. J'ai assez d'argent. Hein? Il a dit non, envoyez les médicaments, envoyez les trucs là en Afrique, ils vont tous mourir. Le corona, piquez-les. Et avant que ça n'arrive, il a dit que ça devait arriver. C'est arrivé, personne ne l'a arrêté. Pourquoi? Il est plus puissant que des nations. Et donc, ce que vous voyez dans la Bible existe encore aujourd'hui. Et Abimelech était grand. Mais à cause de la vision de Dieu dans la vie d'Isaac, il est devenu plus puissant qu'Abimelech. À cause de la vision de l'Éternel dans ta vie, tu seras plus grand que tes ennemis. Tu seras plus grand que tes adversaires. Tu seras plus grand que tes oppresseurs. Au nom de Jésus! Alléluia. La vision est la porte d'entrée de notre règne de domination. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 20. Il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il est, il a été appelé. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Restez où vous appartenez. Restez où vous appartenez. Ne vous mélangez pas. Ne vous mélangez pas. Vous appartenez à quel royaume? Vous appartenez à quel royaume? On voit les enfants de Dieu faire des trucs ici dehors. Tu te demandes, quand ils regardent comme ça, ils disent, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Il y a Alléluia, personne ne répond là-bas. Il dit, bon, je suis autorisé à mentir. Alléluia, je suis autorisé à mentir ici. Joël chapitre 2, le verset 7 à 8. Joël 2, 7 à 8. Regardez où vous appartenez. Joël dit, ils se lancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme les gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Bien aimé, un homme de vision ne s'écarte pas de sa route. Maman Dani Blanc, une femme de vision ne s'écarte pas de sa route. Chacun va son chemin. Chacun va son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne te mélanges pas avec les autres. Tu restes dans ton couloir. Alléluia. Vous allez voir des gens, aujourd'hui ils vendent le pain. Demain, quand ils regardent vous, sa soeur, elle vend les chaussures, ça marche bien. Dit peut-être pour moi, comme pour moi on achète de temps en temps, pour moi on achète chaque jour. Je crois que Dieu me veut là-bas. Boop, il est ici. Boop, demain il est ici. Il vend le foléré, il vend la mangue, il vend le baobab. Mais mon frère, faut te calmer. Où est ton couloir? Où est ton couloir? Il n'y a pas d'omnipraticien dans la présence de Dieu. Vous voyez, à une certaine époque, il y avait beaucoup d'omnipraticiens ici dehors. Il y en avait un ici à Bepanda, il coupait les entrailles des femmes. Les femmes allaient là-bas avorter. Tout le monde allait là-bas avec sa fille, avec elle-même, elle partait là-bas avorter. Un jour, j'ai dit, omnipraticien, c'est quoi? On dit, il fait tout. J'ai dit, mince. Et s'il y a les gens qui font tout sur la terre ici? Il est Dieu. Quand on dit omni, ça dit qu'il fait tout. Et un jour, je me suis assis et discuté avec le docteur Armel. J'ai dit, donc, toi qui as fait la médecine là, est-ce que vous avez les formations omnipraticiennes? Il dit, ça n'existe nulle part. C'est un marabout déguisé. Parfois, ce sont des gens qui ont fait un peu d'infirmerie. Tu vois, ils ont eu les bases et du coup, eux-mêmes, ils s'auto-proclament comme tout le monde, docteur, docteur, il devient docteur. Il fait accoucher les femmes. Il est aide-soignant. Il fait accoucher. Il fait la gynécologie. Il fait l'ophtalmologie. Il fait... Oh, Seigneur. Et toi, tu pars là-bas, tu as le carnet. Tu as le carnet, tu es fier. Quand on coupe tes mains, tu dis que Dieu n'était pas avec toi. Tu fais quoi là-bas? Quand tu vas à l'hôpital, renseigne-toi sur le CV du docteur où tu vas. Tu tapes sur Google, si son nom sort parmi l'ordre des médecins, tu le suis. Tape ordre des médecins du Cameroun, liste, ça sort sur Internet. Si son nom est dedans, il est connu. Si son nom n'est pas dedans, ce qu'il est allé ici à côté chercher son diplôme et revenir. Alléluia. Et là, tu ne vas pas rencontrer un chirurgien, un médecin, tu vas rencontrer un boucher. Et le boucher, qu'est-ce qu'il fait de la viande? Il découpe. Tout ce que tu vas... Toutes les femmes qui entrent chez lui disent fibrom, kyste, fibrom, kyste, fibrom, kyste, fibrom, kyste. Mince. Donc, personne ne vient dans ton hôpital, il n'a pas de fibrom. Ou il n'a pas de kyste. Petite douleur, kyste, petite douleur, fibrom, fibrom. Donc, ça... Je te dis que c'est le fibrom. Je connais déjà ça. Quand il touche le sang, je touche le sang. Ah. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Il ne presse point les uns les autres. Chacun garde son rang. Il se précipite au travers des traits sans arrêter leur marche. Autrement dit, il ne se décourage pas devant les oppositions, devant les pressions, devant la honte, devant l'humiliation. C'est plutôt un carburant pour qu'il puisse avancer. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre pourquoi tu es là où tu es. Si tu comprends pourquoi tu es là où tu es, tu sauras où tu dois aller maintenant. Où tu dois aller maintenant? Où est-ce que tu vas? Vous allez voir des personnes qui avaient des grandes visions dans la vie. Mais le jour où ils se sont mariés, ils sont devenus, toute leur vision s'est accouchée. Alléluia. Mère d'enfant. CV, mère d'enfant. Tu veux quoi là? Mon mari a dit que c'est le temps de l'accouchement. Je n'ai pas envie de dire ce qu'elle voulait dire. Non, il faut accoucher. Je ne refuse pas. Amen. Je ne suis pas contre l'enfantement. Nous prions pour ça. Alléluia. Dieu vient de bénir ma fille Vanessa. Mais je dis que lorsque tu rentres dans le foyer, tu dois avoir une vision. Tu vas où avec ce foyer? Tu t'assois? Tout ton problème, c'est l'enfant. C'est accoucher. Accoucher 1, 2, 3. Tu fais 10 ans de mariage, tu as 8 enfants. Frère, l'homme l'a tombé, il meurt maintenant. Tu vas partir où avec les 8? Accouche même avec vision. Alléluia. Je laisse comme ça, vous êtes déjà pas bien. Je peux avancer? Accouche même avec vision. Écoutez, la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas comme la saison de nos parents. Nos parents pouvaient avoir, un papa pouvait avoir 15 enfants. Le champ est derrière. Hein? Ce n'est plus l'époque des Pajot. Pajot, on mettait le couscous dans le sac, il part à l'école. Aujourd'hui, tu vas mettre le couscous dans le sac de qui? Alléluia. Donc il avait le goûter couscous cuit dedans, dans le sac. Donc le sac, je ne sais pas où le cahier était. La vision. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. Et personne n'est petit pour avoir une vision. Vous allez voir un enfant là, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il va te dire quelque chose, ça va te choquer. Je veux devenir comme, je veux. Alléluia. Tu prends une petite de nos enfants là, qu'est-ce que tu veux être? Un jour, ma cousine, ma grande cousine, elle a son fils Samuel. Il avait peut-être 5 ans comme ça. Et elle avait mis dans une bonne école. Et puis il a 6 ans, il évolue bien. Et à la maison, on était assis comme ça. Et elle lui dit, Sam. Il dit, maman, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il dit qu'il veut être taximan. Parce qu'il aimait la conduite. Alléluia. Ça m'a failli le talocher. Je paye de bonnes études dans ta vie. Tu veux être taximan? J'ai dit, mon petit, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être taximan. Tu comprends? Vous voyez? Il y a des enfants qui sont influencés par leur environnement, mais ils n'arrivent pas à interpréter clairement leur vision. Parce qu'ils aiment la voiture. Du coup, comme il est toujours avec le taxi vient les chercher et les ramène. Et puis comme papa vient, il le cherche, il le ramène, il se rend compte que la personne qui est tout le temps dans la voiture, c'est le taximan. Avec sa petite intelligence, il imagine que s'il est taximan, il va pouvoir conduire 24 sur 24. Ayez de grandes visions. Ayons de grandes visions. Alléluia. Ça m'a failli piquer une crise. Que ça ne va pas bien dans ta tête. Alléluia. Alors, toute vision est le commandement de Dieu pour un individu. Toute vision est le commandement de Dieu pour une vision, pour une vie, pour un individu. Lamentations chapitre 3, le verset 37. Lamentations 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Toute vision est un commandement. Alors, tout à l'heure, papa Emma nous a dit, instruction du Seigneur de finir ce travail. C'est un commandement. C'est la vision de Dieu. Et c'est un commandement que Dieu nous donne d'achever ce travail. Alléluia. C'est un commandement. Lamentations 3, 37. Et la révélation de la parole qui montre où nous appartenons en Christ est la vision. Si vous ne courez pas avec la vision dans cette fin des temps, vous ne serez jamais un candidat à la grâce, à la faveur et à l'élévation. Chacun doit courir avec sa vision. Chacun doit courir avec sa vision. Voilà Nganou, tout le monde le célèbre. Il court avec sa vision, hein. Alléluia. Il court avec sa vision. Aujourd'hui, les gens s'étonnent. Mais il faut rentrer en arrière. Vous écoutez une de ses interviews où il avait dit que lui, il n'est plus là pour les ceintures. Il ne combat plus pour les ceintures. Vraiment. Et lui combat maintenant juste pour le plaisir. Il combat pour taper les gens. Et si on le tape derrière, ok, il n'y a pas de souci. Mais si derrière ça, il rapporte son argent, tant mieux. Alléluia. Maintenant, ils font des combats d'exhibition. D'exhibition. Oh non, regardez là, il y a combien de milliards. Ah, laissez. Toi, on t'a tapé, tu as eu 10 000. Amen. J'écoutais un Français dire dans une émission que je serais prêt qu'on me tape plus qu'un ganou et qu'on me donne la moitié de ce qu'il gagne. Amen. La moitié. On me tape, c'est-à-dire que j'accepte qu'on tape, pam, 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 j'en dans le coma. Mais on me donne la moitié. Alléluia. C'est les matchs d'exhibition. Les matchs d'exhibition, c'est les matchs où il n'y a pas d'intérêt de ceinture. Ça ne change rien. Derrière ça, des gens se font de l'argent. Si lui, il a eu cette quantité d'argent, le gagnant a eu combien? Maintenant, celui qui a organisé le combat, il a eu combien? Les sponsors ont eu combien? Combien de personnes ont regardé ce match? Vous croyez que vous avez regardé, c'était gratuit? Ça a rapporté de l'argent à des annonceurs et à des publicités. Ils ont eu le niveau, ils ont frôlé le plafond. L'argent qui était dedans, bien aimé, c'était la folie. C'était la folie. Pardon? Mais bien sûr, c'est ça que je dis, il y avait beaucoup d'argent. Regarde où tu nous as souillé. Il a souillé qui? Tu l'as envoyé quelque part. Tu as payé son école. Alors, en quoi la vision est-elle profitable pour nous? Premièrement, elle est profitable parce qu'elle est la clé de la provision. Bien aimé, la vision est la clé de la provision. Vous voyez? Même dans provision, quand tu divises en deux, tu vois pro et vision. Pro et vision. Alors, avant que tu n'aies, pro, ça veut dire avant. Avant. Alléluia. Alors, avant que tu n'aies la vision, Dieu t'a déjà donné la pro qui va suivre cela. C'est la clé de la vision, de la provision. Peu importe à quel point les circonstances ont changé, l'homme ou la femme ayant une vision s'épanouiront par tous les temps. Alléluia. En quoi la vision est-elle profitable? Elle est profitable parce qu'elle est la clé de la possession. La clé de la possession. Bien-aimé, la limite de possession de tout homme est déterminée par la limite de sa vision. Est déterminée par la limite de sa vision. Genèse chapitre 13, à partir du verset 13 à 14. La Bible raconte ici l'histoire d'Abraham qui va se séparer de Lot. Et quand il va se séparer de Lot, Dieu va le visiter. Dieu va dire, sors, regarde au nord, regarde au sud, regarde les étoiles, regarde le sable. Voilà le niveau de la postérité que tu auras. Bien-aimé, jusqu'où tu regardes? Jusqu'où tu regardes? C'est quoi la limite de possession de tout homme? Est déterminée par la limite de sa vision. Est déterminée par la limite de sa vision. Il y a des choses qui peuvent vous appartenir et qui peuvent vous échapper si vous ne pouvez pas les voir. Vous n'obtenez pas les choses par hasard dans la vie. Vous les obtenez par vision. Dieu lui a dit, voilà la postérité que tu auras. Mais est-ce qu'il a eu ces enfants-là? Aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham. Mais c'était une vision. Voilà la vision. Alléluia. Alors, si ce n'est pas trop grand pour que votre esprit pense, il ne sera pas trop grand pour votre main. Alléluia. Il ne sera pas trop grand. S'il peut être logé dans votre pensée, il peut être intégré dans votre vie. Tout ce qui n'est pas votre vision ne peut jamais être possédé. Alléluia. Ah oui, moi je veux être... Où est-ce que tu te vois? On n'obtient pas les choses par hasard ou par accident dans la vie. On l'obtient par vision. S'il n'est pas trop gros pour que vous puissiez l'imaginer, il ne le sera pas trop, il ne le sera pas trop pour vos mains. Alléluia. Voyez, ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Quelle limite donnes-tu à ce que tu vois? Quelle limite? Oh non, c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible chez nous. Regardez, juste chapitre 6, Gédéon. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Et Gédéon répond, je suis le plus petit dans une famille petite. Comment tu te vois? Alléluia. Ma famille est la plus petite. Moi, je suis le plus petit. Tu imagines? Non. Non. Aujourd'hui, les gens se voient. C'est pourquoi les facteurs qui défavorisent la vision d'un homme, c'est son environnement de naissance. Où est-ce que tu es né? Parce que tu es né dans un quartier difficile. Tu crois que ta vie ne peut pas aller mieux? Même Jésus est venu d'un quartier populeux. C'est pourquoi on a dit que rien de bon ne sort de Nazareth. Rien de bon. Bien-aimé, peut-être on a dit rien de bon ne sort de votre famille. Peut-être on a dit rien de bon ne sort de votre village. Mais toi, tu vas changer la norme. J'ai dit, tu vas changer la norme. J'ai dit, toi, tu vas changer la norme au nom de Jésus. Tu vas changer la norme. Dis avec moi, je vais changer la norme. Au nom de Jésus, je vais changer la norme. Je vais changer la norme. Je vais briser le protocole. Je vais briser le protocole. Par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, par la vision de Dieu. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. Alors que nous étions, alors qu'on venait de se marier, maman m'avait dit une parole qui a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Alléluia. Avant que je ne reçoive cette parole, je ne voyais pas le monde grand. Je ne voyais pas les choses grandes. Je voyais seulement petit, petit, petit. C'était toujours comme ça. Je me réjouissais d'aider les gens sans attendre le retour. Si on me faisait du bien, et c'était très rare, alléluia. Alors j'avais fini par me plaire de la joie des autres. C'est là-bas que je retrouvais aussi ma part de joie. Et quand je rentrais, je disais, ah, me voici. Et même chez nous, une parole revenait toujours et ma mère s'exclamait toujours en disant cela. Elle disait toujours, pourquoi tu n'as pas de choses est difficile? Pourquoi tu n'as pas de choses est difficile? Pourquoi ta tête est dure? Je ne comprenais pas. Et moi-même, je ne comprenais rien. Jusqu'à la veille, les derniers moments de sa vie sur terre, elle était couchée sur le lit. Elle a commencé à pleurer. Et j'ai dit, maman, tu pleures quoi? Avant qu'elle rentre dans l'état des métastases, elle m'a dit, demain là, si je meurs, tu vas devenir quoi? Hein? L'aîné de 8 enfants. Elle dit, tu es l'aîné. Tes frères vont se moquer de toi. Tu vas de... Voilà, si elle part demain, tu n'as rien. Tu n'es rien, mon fils. Chérie, la parole là m'a touché. Cette nuit-là, je suis allé prier sur le balcon de l'hôpital général. J'ai dit, oh Dieu, si un jour je t'ai demandé quelque chose, aujourd'hui, c'est une prière que je te demande. Je ne t'ai jamais fait cette prière. S'il te plaît, exauce-moi. Cette nuit même, visite maman et montre-lui mon futur avant qu'elle ne parte. Qu'elle se réjouisse avant de partir. Et le matin, on s'est réveillé à... C'est maman qui nous a réveillés. 6 heures. Elle m'a appelé. Pas mon petit nom que je ne vais pas vous dire. Parce que c'est... Que Dieu vous bénisse. Mazia, tu peux dire le petit nom que ta maman t'appelle avec. Tu ne peux pas dire non. C'est votre relation d'amour. Amen. Quand elle t'appelle comme ça, tu sens que tu es en haut. Alléluia. Il y a un plat. Hey Patrick, il y a un petit nom que maman t'appelle avec. Quand tu sens que non, malgré tout l'âge que tu es bébé encore. Et ça te fait du bien. Alléluia. Ah, que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les mamans. Et ce matin-là, elle m'a appelé et je suis venu à côté d'elle. Elle m'a dit, j'étais vue. Ah, j'ai dit, comment? Elle dit, j'étais vue. J'ai vu ton futur. J'ai vu les nations dans lesquelles tu vas arriver. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Quelle est ta vision? Oh, c'était les nations que Dieu m'avait données dans le secret et que j'avais notées. Pendant un temps de prière, le Seigneur m'a dit, je ferai ça pour toi, je ferai ça pour toi. Mais tu sais, il y a des choses, quand tu souffres beaucoup, tu n'y crois pas beaucoup, tu notes seulement. Alléluia. Non, non, c'est la vérité. L'avantage que j'avais sur toi, c'est que j'avais noté. Toi, tu ne notes rien. Parce que tu souffres, tu prends ta souffrance, tu ensevelis dessus. Et j'ai noté. Et j'ai dit, ah Seigneur, si ça s'accomplit, amen. Si ça ne s'accomplit pas, amen, je te suis. En tout cas, je ne me suis pas engagé pour te suivre pour ça. Je me suis engagé parce que je t'aime. Amen. Et ce jour-là, maman m'a fait asseoir. Elle a commencé à me dire, je t'ai vu dans telle nation. Elle a cité les nations, bien-aimées. Elle dit, après elle a dit, elle m'a dit, attends, assois-toi. Ta femme va arriver. Voici comment tu dois te comporter avec elle. J'ai dit, ma femme, Tu sais, quand tu passes certaines situations, tu dis que merde. Tu dis, le mariage n'est pas pour moi, frère. Alléluia. Je sais, Jésus, on oublie l'histoire là. Et elle me dit, j'ai vu ta femme. Et je me suis rappelé d'une vision que Dieu m'avait montrée. Une nuit, le Seigneur m'a transporté dans sa présence et je me suis retrouvé devant le trône. Et j'ai vu le Seigneur assis, j'ai vu la robe, mais je ne voyais pas le visage. Mais dans mon esprit, je voyais comment il parlait. Alléluia. Vous savez, au ciel, on ne voit pas avec les yeux-ci. On voit avec les yeux-ci. Et c'était impressionnant. Et j'ai vu ma mère, elle n'était pas encore décédée, hein, assise à côté du Seigneur. Et elle lui disait, regarde la femme que mon fils va épouser dans la suite des temps. Et je voyais comment le Seigneur dit, oui, oui, c'est elle, c'est bien. Et on l'a vu, je l'ai vu avant. Amen. C'est pourquoi n'épouse pas n'importe qui si tu n'as pas une vision de la vie de la personne. Donc je savais dans quoi j'entrais. Donc même si ça chauffait, j'avais vu. J'avais vu. Alléluia. Donc ce jour-là, elle me donne des conseils pour ma future femme. Et je lui dis, oui maman, j'ai eu une vision. Elle dit que oui, j'ai vu ça cette nuit. Et cette nuit-là, et ce matin-là, elle m'a dit, il faut que je parte, prie que je parte. J'ai dit, mais tu ne peux pas partir sans bénir mes frères et sœurs. Il dit, appelle-les. Et la journée-là, elle a donné des paroles prophétiques à chacun. Tout le monde qui est en train de donner une parole prophétique. Mais pour vous dire que la prophétie, si, c'est voilà d'où ça vient. Elle était ma première prophétesse. Alléluia. Et à la fin, on est resté seul cette nuit-là. Tout le monde était parti. Elle m'a dit, maintenant j'ai béni, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, maintenant c'est le temps de l'impartition. Élie, quand il part, il laisse le manteau. Amen. Et maman m'a laissé près de 5 manteaux avant de partir. Ce n'est pas les rêves. Elle a fait ça physiquement. Elle dit, voici, tu veux ça? Prends, au nom de Jésus. Tu veux ça? Prends, au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Élie dit, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas elle qui m'a dit ce qu'elle va me donner. C'est moi qui lui ai dit ce que je voulais. Et elle a pris, elle m'a donné. Ah. Et donc, quand j'ai rencontré maman, bon, j'avais toutes ces révélations-là, mais bon, ça n'est... La souffrance était là. Le rejet était là, les difficultés. C'est dans cette période-là que j'ai connu frère Yves. Alléluia. Venez aussi, je les encadrais. Mais moi-même, je ne pouvais pas lui dire que là où tu me vois, ma vie... Tu as encore les gens qui ont gâté leur foi. Amen. Ça va gâter leur foi. Ils vont dire, mais ça n'a pas les premiers pieds. Ah, il n'y a pas où. Mais on priait. Et j'avoue que Dieu manifestait sa grâce dans leur vie. Quand tous partaient, je restais seul et dis, et moi alors. Et alors, quand j'ai connu maman, un jour on marchait. Et elle m'a dit, cette parole a été forte. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que toi aussi tu as droit au bonheur? Ça a été comme le déclencheur. À partir de ce moment, mes yeux se sont ouverts sur le bonheur. Alléluia. Le bonheur. Et mon premier bonheur, c'était elle. Alléluia. Donc aujourd'hui, pour entretenir le bonheur, même si elle me dit qu'elle a besoin de 5 000, je lui donne. Amen. Mais ça a été... C'est pourquoi il ne faut pas avoir n'importe qui comme partenaire dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Oh, est-ce qu'on va même finir aujourd'hui? On va finir. Alléluia. En quoi la vision est-elle profitable? La vision est profitable parce qu'elle est la clé de la préservation de la vie. De la préservation de la vie. Oh, bien-aimé, Genèse chapitre 25. Regardons le verset 7 à 8. 25, 7 à 8. Est-ce que nous y sommes? Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Oh, alléluia. Écoutez la suite. Âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Heureuse vieillesse, âgée, rassasiée de jours. Trois choses importantes. Aujourd'hui, les gens n'ont pas une heureuse vieillesse. Beaucoup de gens n'ont pas une heureuse vieillesse. Ils ont une vieillesse triste, amère, comme Rebecca. Rebecca a une vieillesse amère et elle est morte prématurément à cause du déchirement de ses fils. Alléluia. Beaucoup de gens sont âgés, mais n'ont pas une heureuse vieillesse et ne sont pas rassasiés de jours. Et à la fin, ne sont pas recueillis auprès de leur peuple. Ne sont pas recueillis. Savez, quand tu es recueilli auprès de ton peuple, c'est que à ton départ, quand tu pars, les gens se souviennent de toi et célèbrent Dieu. Pas les hypocrites qui viennent sur la tombe. Vraiment, il était bon alors qu'on sait que tu étais mauvais. Un homme droit, alors que tout le monde sait que tu étais un coureur de jupons. Alléluia. C'était un homme bien, alors que tout le monde savait que tu étais un homme orgueilleux et méchant. La vision prolonge la vie. Les gens de vision sont durables sur la vie. Rien ne prolonge la vie comme la vision. Alléluia. En quoi la vision est-elle profitable? Elle est profitable parce qu'elle apporte le changement et la transformation. Le changement et la transformation. Genèse chapitre 30, à partir du verset 37 à 40. Alléluia. Là, on voit comment Jacob, après qu'il ait eu une vision concernant... Je ne sais pas comment on appelle ça à l'école. Les jeunes là, ils vont un peu nous aider aujourd'hui. Alléluia, on voit ça en science. On voit ça quand on fait les trucs de génotype, phénotype. On fait ce mélange, les croisements. Les croisements, c'est ça? Génétique. Quand on parle du génotype, on parle du phénotype. On parle des croisements, c'est ça, n'est-ce pas? Alléluia. On croise X et Y, on croise 2X, et c'est pas un truc comme ça. C'est ça? Ah, l'école là était dure, hein? Mais on s'en souvient encore. Alléluia. Alors, lorsque vous lisez ce texte-ci que je viens de vous donner, vous voyez Dieu commencer les premiers croisements. Amen. Maintenant, regardez, écoutez la suite. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des branches, des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. il se fit ainsi de nombreux, de troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Regardez. Laban ne voulait pas lui payer ce qu'il lui devait. Et Laban, quand il a réclamé son salaire, Laban lui a donné des brebis malades. Que bon, si tu arrives à les multiplier, ce sera ta part. Alléluia. Jacob part dans la présence de Dieu. Dieu lui donne une vision. Et Dieu lui montre trois types de plantes. Il dit, utilise ces plantes-là, mets-les devant l'animal quand elle sera en chaleur. Et quand l'autre va venir vers elle, ils vont regarder ça en s'accouplant. Et immédiatement, ils vont accoucher les enfants qui ont la couleur de cette plante-là. Ah, quelqu'un n'a pas compris. En d'autres termes, ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Il y a des situations auxquelles tu dois te confronter. Regardez, tous les jours, tu vis des moments, des situations difficiles. Il y a des milieux dans la vie, bien-aimé. Si tu les fréquentes tous les jours, ça va influencer ta manière de comprendre et de voir les choses. Tous les jours, tu vas à Yaoundé. Tu vois les gens qui prennent le VIP 15 000, tu les insultes. Oh, vous croyez que vous avez trop l'argent, vous êtes orgueilleux. Ça change la vision. Essaye un matin, tu ne vas plus jamais prendre 2 000. Ou quelqu'un ouvre le téléphone et dit, « Tu es où ?» Il crie que dans ton oreille. « Ma soeur, tu es devant moi. Pardon, tu ne pouvais pas acheter ta voiture toi-même. » Alléluia. Bien-aimé. Récemment, quand j'étais à Bangui, et on discutait avec un frère et sa femme, et on discutait, et il disait que, et on discutait si tu as assez d'argent, est-ce que tu peux prendre le business class ou bien le classique, les places classiques. Amen. Et je disais, non, si j'ai bien l'argent, je prends business class. Il dit que voilà. Il dit que c'est stratégique. Parce que là-bas, tu vas rencontrer des directeurs généraux, des présidents des banques, des grands. Tu vas avoir une bonne conversation. Je ne parle pas derrière. Derrière aussi, c'est bien. Amen. Alléluia. Mais je veux dire que il y a certaines atmosphères qui influencent notre manière de voir les choses. Il y a des atmosphères, lorsque tu restes à l'intérieur, bien-aimé, tu ne vas connaître que jalousie et haine. Quand on va t'attaquer, les gens sont jaloux de moi. Les gens sont jaloux. De quoi? Tu as quoi? Alléluia! Mais quand tu vas arriver dans une autre atmosphère, tu vas te rendre compte que non, les gens ne t'enviaient même pas. C'est toi qui avais un problème avec toi. Alléluia. Tu marches comme ça, quelqu'un te regarde, sorcier. Quelqu'un te regarde, mal, sorcier. Quelqu'un te regarde, sorcier. Quelqu'un te... Alléluia. Non. Il y a des milieux, il y a des atmosphères qui font évoluer ta mentalité. Qui font évoluer ta mentalité. Alléluia. Quand vous dites tous les jours, prends un peu de ton argent, habille-toi bien, va à Bonanjo, la rue des banques, passe la matinée dans les banques là-bas. Tu sors, ça va te faire du bien. Quand il te dit, cotise ton argent 15 000, tu vas à Bonapriso, il y a un restaurant en face de Paul. Tu t'assois là-bas, 15 000, tu as un petit couvert, tu manges, tu regardes les gens, tu rentres. Le jour-là, aucune couche de nuit. Tu couches de nuit parce que ta pensée est bête. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Non, je vous challenge. Je vous challenge. Vous avez des petites pensées parce que vous restez là où les gens réfléchissent petit, mal. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Il n'y a pas une balle perdue comme gars nous dehors. Hein? Amen. Non, 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 non. Ce n'est pas trop cher. Ce n'est pas trop cher pour ce que tu vas gagner ici. Pour ce que tu vas gagner ici. Alléluia. Va dans les bons endroits. Tu vas te rendre compte qu'on n'a même pas besoin d'autorisation pour entrer dans certains endroits. C'est seulement le courage. Quand tu vois, tu les gens bien. Les gens. Ça, c'est la sorcellerie qui t'habite. Alléluia. Non, je vous challenge. Vous restez trop dans votre truc là. Amen. Même toi avec ta femme, sors ta femme. Oh, elle est déjà bizarre, elle est comme le lion, elle veut me manger. Va dans un restaurant avec elle. Elle va voir les gens vivre, elle va dire, mon mari même. Et sa mentalité va aussi changer. Tous les jours, tu es là. C'est toi qui pars dehors, tu reviens, tu la trouves là. Mon frère va vieillir avant le temps. Présente-la à l'air libre. La fleur qui est exposée à l'air. Oh, la vie est bien. Regardez ma part. Regardez ma part. Babadez pour vous. Alléluia. Oh, je travaille, travaille. Tu travailles quoi? Ton premier travail, c'est ça. C'est ça. Ton premier. Ta vision, c'est ici. C'est pas là-bas. Voici ta plus grande vision. Si tu perds ceci, tu es paralysé à vie. Tu es paralysé. Regardez beaucoup de hommes qui ont eu une grande proximité, une grande relation avec leurs épouses. Qu'elles sont pas, même quand il n'a pas eu une grande relation et qu'elle est partie prématurément, il est malade. Il parle seul dans la maison. Il insulte tout le monde. Alléluia. Parce que celle qui encaissait est partie. Ma mère est partie à 56 ans. Hier, mon oncle m'a appelé. Le dernier, il m'a appelé, il m'a dit que, ah, mon fils, avant-hier, j'ai eu 50 ans, prie pour moi. J'ai dit, 50 ans, plus 6, et ma mère est partie. Une jeune femme. Alors, si tu n'entretiens pas ta vision, elle va vivre. Frère! Ah non, j'ai préparé le pompilé. Laisse pompilé, allons manger quelque chose dehors. Alléluia. Habille-toi, porte ta belle robe. Tu as localisé un petit restaurant qui correspond à ta poche. Tu arrives, tu dis, mamie, prends tout. Tu sais que ça va gérer ta poche. Et tu le fais de manière constante. Est-ce que quelqu'un me suit? De manière constante. De manière constante. Tu ne sors pas seulement avec ta femme quand il y a le deuil ou la levée de corps. Alléluia. Tu cours son boubou, elle court, ça va. Vous allez au deuil. C'est quoi votre problème? On dit, l'apôtre bavarde, ça va, j'arrête, on arrête. On continue ou bien on arrête? Si maman Sylvie dit on continue. On court les habits seulement pour le deuil. Chérie, je t'ai gardé un bon pain. Cours ta part, cours pour moi et puis on va sortir un peu, aller manger quelque part. Non, c'est pour le deuil. S'il y a un nouveau pain dans la maison, c'est le deuil. C'est un deuil. Dis avec moi la vision. Vous voyez combien la vision se retrouve partout dans nos vies. Alléluia. Alors si quelqu'un dit qu'il n'a pas de vision, il est menteur. Parce que ça c'est dans toutes les parcelles de notre vie. Alléluia. C'est dans toutes les parcelles de notre vie. Et ça n'attend que toi. Ça n'attend que toi. Ça n'attend que ton réveil. Amen. J'ai vu, écoutez, il y a un livre qu'un grand pasteur américain a écrit, Robert Lyndon, les God General, les généraux de Dieu. Et dans ce livre, il a écrit peut-être 3 ou 4 tomes. Alléluia. Et dans ce livre, il parle des hommes de Dieu, des grands généraux qui ont influencé l'évangile dans le monde et dont les femmes sont mortes prématurément. Parce qu'ils étaient tellement engagés dans la mission qu'ils ont oublié leur propre femme. Elles sont restées là. C'est l'œuvre de Dieu. Après, elles sont mortes. Alléluia. Deux choses détruisent la vie des ministres. Première chose, le fait de mettre en priorité l'œuvre de Dieu avant son foyer. Non, vous devez savoir que le foyer, c'est l'œuvre de Dieu. Si ta femme n'est pas convertie à ton message, il n'y a personne qui va être converti. C'est le bavardage. Si ton mari n'est pas convaincu, tu vas fonctionner dans l'amertume. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans le livre des Tite que celui qui ne peut pas gérer sa famille ne peut pas diriger l'église. Parce que la condition pour prendre soin de l'église, c'est prendre soin de ta propre famille. Parce que l'église est le reflet de ta famille. L'église, c'est la famille. Ah, je sais que vous n'allez pas m'aimer. Alléluia. Alléluia. Alors, elle n'aime pas quand j'ai pas prêché. Oui, parce qu'elle-même, elle n'a pas été prêchée. Prêche-la. C'est de que tu attends, maman. Qui te prêche. Oh! Alléluia. Prêche-la l'évangile. Tous les domaines, tu prêches. Papa prêche comme ça. Tu prêches. Jusqu'à ce que quand tu sois essuyé seulement, on part par où tu dis à gauche. On part par où à droite. On part par... Papa, je crois. Elle dit seulement amen à tout ce que tu dis. Amen. Elle sourit à tout ce que tu dis. Hey! Alléluia. La vision. Quelqu'un dit la vision. La vision. Oui. Deux choses. Le fait de ne pas prendre soin de ta propre famille et de mettre l'œuvre de Dieu en priorité. C'est la même chose dans la vie, dans tout autre métier de la vie. Hein. Si ton travail séculier est prioritaire sur ton foyer, tu auras des dommages. Je sors pour aller chercher l'argent pour nous, non? C'est pour que tu sois heureux. Quel heureux! Est-ce qu'elle a marié le travail? Oh, j'ai toutes les choses. Je laisse. Je vois les gens qui... Non, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Alléluia! Ah, ça, vous avez vu, les balles perdues. L'idée, écoutez, Dieu n'est pas dans la paresse. Regardez, Dieu crée l'homme et la femme, il leur donne le premier bénédiction sur le travail. Il leur donne le jardin pour cultiver. Et il cultive à deux. Il cultive. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas en train de dire ici que non, il faut que toutes les femmes contrôlent leur mari. Ça, c'est la sorcellerie encore. Je dis que même dans le trop-plein de ton travail, tu dois trouver le temps pour passer avec ta famille. Alléluia. Tu dois trouver le temps. Tu dois te donner le temps pour ta famille. Parce qu'à la fin, c'est elle qui reste avec toi. Quand tu n'auras pas le travail, elle est avec toi. Non, je n'ai pas... Non. Non. Il y a eu des moments où je devais aller quelque part. Maman m'a dit, non, ne pars pas. Je veux que tu restes. Et j'ai dit, ok, renvoyons ça à une autre date. Alléluia. Parce qu'au moment-là, elle a besoin de ma présence. Alléluia. Maintenant, toi, tu as un calendrier peut-être compliqué de travail. Organise-toi. Comment fait ton patron pour avoir la vie de couple? Alléluia. Donc, tu crois que c'est en faisant ça, personne n'est riche en travaillant pour les autres. Hein? Donc, oublie que tu vas être prospère dans cette histoire. La personne qui te rend prospère, c'est ton partenaire de vie. La joie qu'il t'apporte, la paix qu'il t'apporte, la bénédiction qu'il t'apporte, ça te donne de la force pour gérer toute autre bataille extérieure. Si à l'intérieur tu as des combats, à l'extérieur tu as les combats, tu es un homme mort. Alors il est mieux pour toi d'avoir les combats au dehors et d'être en paix à l'intérieur. Alléluia. 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 C'est de ça qu'il est question, mes bien-aimés. Nous ne demandons pas, je ne dis pas ce matin de ne pas travailler et de passer toute la journée, 24, même ta femme va dire sors. Alléluia. Une bonne femme va dire que sors. Alléluia. Tu fais quoi ici? Tous les autres hommes sont dehors. Toi, tu fais quoi ici? Non, il veut être avec toi. Amen. À côté de ça, donc tu dois t'organiser. Tout est fonction d'organisation. Et même si tu n'as que 2 minutes, que les 2 minutes là, tu les mettes à profit pour pouvoir exprimer la vision de Dieu dans ton foyer. Alléluia. Amen. Amen. Il est arrivé des fois, maman rentre du travail à 21h, elle dit, on sort. Elle dit, non, je suis fatigué. Elle dit, change-toi, rafraîchis-toi, change-toi, on sort. On va dans un restaurant. On mange jusqu'à 22h, 23h. Et puis on rentre. On est au chien méchant chez nous. Alléluia. Amen. J'ai trouvé du temps, n'est-ce pas? Paul dit qu'à temps favorable ou non favorable, tu dois prêcher. Dans ton foyer, à temps favorable, tu dois prêcher. La femme, c'est comme l'église. Tu dois en prendre soin. Alléluia! On va faire le séminaire. Pardon? Alléluia. Ça coule bien. Alors, en quoi la vision est-elle profitable? Elle est profitable parce qu'elle apporte le changement et la transformation. Le changement et la transformation. Genèse chapitre 30, à partir du verset 37 à 40. Alléluia. Nous avons parlé de ça tout à l'heure, 37 à 40. Le changement et la transformation. Vous voyez bien, mais les vies, les systèmes, les sociétés sont modifiées par la vision. La vision que vous voyez est la matière première que le Saint-Esprit utilise pour produire le résultat souhaité. Alors, si tu n'as pas de matière première, qu'est-ce que tu vas espérer avoir? Rien du tout. C'est la matière première. Si vous voulez que quelque chose se passe différemment, commencez à voir différemment. Commencez à voir différemment et commencez à vous voir différemment. Amen. Regardez le témoignage que Gédéon fait sur sa vie dans Genèse 6. Il dit, il est le plus petit. Sa famille est la plus petite. Sa famille est la plus pauvre. Il est le plus petit. Lorsque Dieu visite un homme, il ne regarde pas d'où il sort, mais il regarde où il va. Il regarde où il va. Quand Dieu a pris Moïse a dit, je ne connais pas parler. Il dit, Ça énervait Dieu parce qu'il ne comprenait pas que la vision que Dieu lui donnait devait pallier à ses faiblesses. Regardez Fonso Victor, il est devenu riche. Il parlait plus bien français que toi. Kadi, il est devenu riche. Il parlait mieux français que toi. Celui qui a la falaise, on l'appelle comment? Mon cas, il parle. Tu as entendu son français? Tu vas tomber à terre 10 000 fois. Mais parce qu'ils ont une vision, ça palliait leurs insuffisances. Aujourd'hui, ceux qui sont là à l'école les acclament. On étudie leur parcours en doctorat. On fait de leur vie des thèses de doctorat. Nul point dit qu'ils ne savaient pas parler français, ils ne savaient pas parler anglais. Quand les investisseurs anglais venaient, ils prennent quelqu'un, ils disent que quoi? Alléluia. Le Jonta à Bangui, on a vu Kiferou qui est là-bas. On a vu le type-ci qui a apporté Kafou au Cameroun. Le type de Bantunsi qui a le poussé un jour. La plus grande ferme d'Afrique centrale. Qui fait dans la provenderie. Voilà. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a amené les Kafou au Cameroun? C'est lui qui a ouvert la porte. Un Bantunais. Elle a donné son nom là-bas. Son nom. Voilà. Aujourd'hui, il est mort. Son fils est mort. Il est mort. Son fils, quelques mois et quelques temps plus tard, est mort aussi. Aujourd'hui, c'est la femme de son fils qui gère les biens. À Bangui, c'est la femme de son fils qui gère. Alléluia. Il est numéro un. Et un monsieur qu'on a rencontré là-bas nous a dit qu'un jour, puisque quand il venait à Bangui, c'était lui qui était le chauffeur. Il nous dit que le type leur a dit que le jour qu'il aura un rival en Centrafrique, il va réduire le prix du poussin. Amen. Parce que le prix du poussin, c'est 800. Il a dit que le jour où il aura un rival, parce qu'il estime qu'il n'a aucun rival, il va réduire le prix du poussin à 500. Il va voir si la personne va le suivre. Autrement dit, pour te dire que même à 500, il ne paie pas. Mais il laisse à 800 pour le marché. Amen. Amen. La transformation. Pourquoi la vision est-elle importante? La vision est importante parce qu'elle définit à la fois l'avenir et la destinée d'un homme. L'avenir et la destinée d'un homme. Bien-aimé, le rêve d'aujourd'hui est la réalité de demain. Le rêve d'aujourd'hui est la réalité de demain. Alors, je te pose une question simple. À quoi rêves-tu? Il y a des rêves que quand tu te rêves, tu ne sais pas pour moi. Arrière de moi, Satana. Alléluia. Parce que tu estimes que de là où tu viens, qui a déjà fait ça dans votre famille? Vous devez savoir que lorsque Dieu veut visiter un homme, il ne consulte pas sa lignée familiale. Dieu ne vient pas dire à tes ancêtres, est-ce que vous autorisez cet enfant de devenir grand comme vous êtes devenu petit? Alléluia! Non! Le rêve d'aujourd'hui est la réalité de demain. Là où vous voyez aujourd'hui, c'est là où vous vous retrouverez demain. Tout ce qui ne doit pas être votre avenir, ne lui permettez pas d'être votre image. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, il dit, toute chose se pour un temps, chaque chose se pour un temps. Bien-aimé, tu peux voir quelque chose, mais le temps de cela pour sa réalisation n'est pas encore arrivé dans ta vie. Alors ne critique pas. Parfois, vous allez voir la réussite des gens, ne les critiquez pas, parce que demain, vous pouvez passer par cette réussite-là pour devenir aussi grand. Et comment vous allez être? Vous aurez la honte. Amen. J'ai rencontré un pasteur à Yaoundé un jour. Il me dit, il y a un pasteur ici à Douala qui est sorti d'une congrégation. Parce qu'il est sorti de là, il faisait des miracles, il faisait des délivrances. Et dans cette congrégation, on ne faisait pas la délivrance. On ne faisait pas les miracles. Alléluia. Et tout le monde le critiquait, même lui. Et les frères, un jour, le Saint-Esprit a commencé à m'utiliser comme celui-là. J'ai eu honte d'aller le saluer. Parce que j'avais critiqué ça jusqu'à ma dernière énergie. Écoutez, papa Martin, il dit que hier, avant, il voyait les délivrants là à la télé, il dit, montage. Vous voyez? Vous voyez? Ça là, hein? Bien-aimé, la roue tourne. La roue tourne. Et l'histoire suit une ligne. Ça continue. Rien ne peut arrêter la course de l'histoire. C'est lancé déjà par le Seigneur. Alors, ce n'est pas parce que toi, tu t'arrêtes que la vie ne continue pas. Oh, moi, je ne marche plus. Je ne marche. La vie continue. Les gens vont te dépasser. Les enfants que tu as laissés à la sixième, tu es en terminale, ils sont toujours là. Hein? Ils vont arriver te dépasser. Oh, mon petit, j'ai le bac. Hein? Demain, ils auront le doctorat. Tu vas aller les appeler grand. Bonjour, grand. Quand je vais dans mon quartier de naissance, je suis dans la voiture, un jour j'arrive avec la voiture comme ça, un grand frère du quartier me veut dire, oh mon grand, j'ai arrêté la voiture, j'ai garé, je suis sorti, il dit, comment tu m'appelles grand, tu es mon grand frère, il dit, non, aujourd'hui tu es un peu, tu vois, il dit, c'est la bêtise grand frère, arrête-moi, dit mon petit, arrête-toi, donne-moi à boire, point. Tu as ce droit. Si Esaü avait dit à Jacob, je suis ton grand frère, donne-moi ce pot de lentilles, je mange. Par droit d'aîné, il devait lui donner. Amen. Il y a des choses qu'en tant que grand frère, tu ne consultes pas la vie de ton petit frère. Donne-moi ça. Alléluia. C'est pas ça? Hein? Donne-moi ça. Ah, il va aller dire à maman, va dire. Entre temps, tu manges toi. Alléluia. Droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Tu ne demandes pas, tu t'appropries. Mon oncle dit que quand il était tout petit, son grand frère, quand la grand-mère, notre grand-mère, leur maman leur donnait la viande et il mange. Mon oncle, son grand frère qui finissait vite sa part, il dit, viens. Quand il vient, il dit, je peux te montrer quelque chose. L'objectif, c'est la viande. Alléluia. Il dit que, donne-moi ta viande, monte sur mon dos, je te porte. Quand il veut manger, ça va entrer dans mon ventre. Comme ça sort sur mon dos, ça entre dans ton ventre. Et mon oncle a fait ça pendant plusieurs années. Avant d'aller à l'école, on lui a dit que ça n'existe pas. Et à la fin, mon oncle disait que, bon, quand il finit l'os, il dit, non, tu sais, plante ça. Ça va faire l'arbre de la viande. Donc, il avait fait tout un sillon d'os. Et un jour, on est au village, il en parle, il dit que, mon grand frère, si tu m'as eu, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Alléluia. Alors, bien-aimé, vous n'êtes peut-être pas encore là où vous êtes censé être, mais vous devez continuer à voir. Vous devez continuer à voir et vous y arriverez. Alléluia. N'abandonnez pas Dieu parce qu'il ne vous abandonnera pas. Il est capable. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Alors la seule chose que vous ne devez jamais faire est de vous asseoir et de ne rien faire. La seule chose que vous ne devez jamais faire, c'est de vous asseoir et de ne rien faire. Voyez où vous allez. Réfléchissez à ce qu'il faut faire pour y arriver, puis commencez à prendre des mesures. Et le ciel vous obéira. Et j'ai dit, le ciel vous obéira. J'ai dit, le ciel vous obéira. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?